et le gouvernement, dans l'univers dans lequel je me place, et puis assez largement à l'époque moderne en réalité, c'est pour ça que j'ai pas trop de scrupules à faire ce bond, c'est d'abord le gouvernement de soi. Et le gouvernement des autres, et y compris l'architecture politique, elle dépend d'abord de règles qui sont celles du gouvernement de soi. On ne conçoit pas du tout de coupure entre ces deux étages à l'époque, étage personnel, si vous voulez, l'étage politique. Je vous prends juste une définition qui est tirée de Covarrubias. Covarrubias, c'est le Tesoro de la Lengua Castellana, c'est le premier dictionnaire de l'espagnol, c'est 1614. Donc il n'y a pas d'entrée gouvernement, il y a une entrée gouvernée. Hein, il dit « Gerir, encaminar o administrar o la república o personas y negocios particulares, su casa y su persona » et il ajoute « Gobernarse uno bien es vivir consultada y cuerdamente lo que muchas veces falta en los que gobiernan otros » pour nuestros pecados. Donc ça veut dire que vous avez vraiment cette idée que le terme gouvernement s'applique aux deux étages et qu'il y a une sorte de transitivité entre les deux, puisque quand vous gouvernez mal, vos péchés retombent sur la communauté politique. Donc gouverner, c'est d'abord se gouverner, et ça se traduit par tout un ensemble de techniques dont le couvent est un peu le laboratoire. Alors je ne vous dis pas que tout type de gouvernement est calqué sur le gouvernement conventuel, mais dans les élites, et notamment dans les élites ibériques et hispaniques, le modèle conventuel est assez présent, y compris au-delà du couvent. Vous savez que les aristocrates, le roi d'abord, et puis les aristocrates les puissants fondent des couvents, ont des confesseurs qui sont souvent des religieux plus que des ecclésiastiques, vivent parfois dans des palais qui vivent au rythme conventuel, ils suivent les heures, ils ont souvent un couvent annexé à leur palais, ils font construire ce qu'on appelle des passadissos, c'est-à-dire des petits tunnels qui leur permettent en permanence de vivre entre le couvent et le palais. Il y a une sorte d'imbrication extrêmement fort, et il y a même des travaux très près pour le coup du pouvoir. Il y a un travail de 2001 sur les Descalzas Reales de Madrid, d'une collègue américaine, qui montre vraiment comment les Descalzas est en fait un des lieux du pouvoir de la monarchie, alors que c'est un couvent féminin. Bon. Et donc ça, c'est valable un peu plus globalement. L'éthique monastique, l'éthos, enfin, la manière de se comporter monacale, et quelque chose qui est un laboratoire du gouvernement de soi et des autres. Voilà, alors ensuite, gouvernement par l'image. Et là aussi, je suis obligé de faire un petit peu un détour. Alors, le premier sens qui s'impose quand on utilise le terme image, c'est tout simplement, voilà, disons, les images matérielles produites par les hommes, et notamment par ceux et pour ceux surtout qui gouvernent, des peintures, des gravures. Voilà. Il y a toute une historiographie là-dessus qui s'est engouffrée dans la brèche depuis très longtemps, qui est assez importante en Espagne, où on utilise beaucoup le terme propagande, alors qu'on ne l'utilise pas du tout dans l'historiographie française parce qu'il est très débattu, mais il y a une sorte de propagande royale avec les gravures, ou de propagande nobiliaire, les armes des nobles qui sont mises au fronton de leur couvent, par exemple. C'est une sorte de propagande dans l'historiographie. Voilà, donc il y a l'idée que les images matérielles transmettent, visualisent, symbolisent et incarnent le pouvoir dans un espace. Mais c'est pas exactement de ça que je vais parler, même si vous allez voir, je vais y venir. C'est mes objets qui me portent un petit peu à faire un pas en arrière, mais vous allez voir que le lien avec les images matérielles n'est pas métaphorique. Ce sur quoi je vais travailler, c'est d'abord l'image de soi et l'image qu'on renvoie aux autres. Hein, et donc c'est l'image que constitue le corps de chacun, ses attitudes, ses postures, sa manière de se tenir, comme lieu d'exercice du pouvoir et matrice des relations de pouvoir dans cet espace. Donc du coup, je vais essayer d'articuler dans mon intervention des choses qui renvoient à l'ascèse personnelle, à la manière de se tenir, des choses qui renvoient à la communauté conventuelle, donc comme communauté politique, au sens communauté sociale régie par un ensemble de pouvoirs et des rapports de pouvoir, et puis usage des images pour comprendre les mécanismes du gouvernement par l'image. Donc d'abord, je commence par la manière dont la vie religieuse est une vie qui consiste à produire des images. Et je voudrais vraiment défendre l'idée et que vous compreniez que ce n'est pas une métaphore. Je ne suis pas en train de me saisir du thème du séminaire pour le plaquer. Il y a des liens qui, à mon avis, sont assez nets. L'ascèse, c'est l'ensemble des techniques qui consistent à transformer le corps en image pieuse. Ce recours au lexique de l'image, donc ce n'est pas une métaphore, le corps de la religieuse est une image pieuse présentée aux autres. C'est une évidence, si vous voulez, si vous songez à un certain nombre de trucs. Dans l'Espagne du temps, c'est Pierre Civil qui fait la remarque, je ne sais plus trop où, les réglementations vestimentaires, vous savez que à l'époque moderne, il y a tout un ensemble de réglementations sur la manière sur le type de vêtements qu'on peut porter, sur la manière de se tenir. Les réglementations vestimentaires sont justifiées par des références au décret tridentin, donc au décret du Concile de Trente, sur les images et le culte des saints. Donc c'est le même corps législatif, si vous voulez. Le corps des religieuses est encore plus une image, si vous voulez, parce qu'en gros, elles ne parlent pas. Alors, bon, il y a un écart énorme entre la théorie et la réalité, mais globalement, vous ne parlez pas beaucoup quand vous êtes une religieuse, et notamment quand vous êtes une carmélite. Le corps des religieuses est une image parce qu'elles ne parlent pas, et c'est leur maintien, leur habit, ce qu'elles renvoient, qui parle pour elles, en quelque sorte. Et puis, il y a de manière très claire, ancrée dans la tradition monastique, l'idée qu'on apprend par l'exemple des autres, en les regardant, plus que parce qu'ils nous disent et parce qu'on lit. C'est-à-dire que c'est la forme de vie, c'est le terme qui est consacré par l'historiographie. Vous avez un grand philosophe italien qui s'appelle Giorgio Agamben qui a travaillé sur ces questions-là. C'est la forme de vie qui est supposée incarner la règle, incarner la manière de vivre et être l'exemple vivant pour les autres de la manière dont on doit vivre quand on est religieux. On a souvent cette idée que vous avez des règles étrictes et puis des gens qui essaient de s'y coller, mais en fait c'est d'abord la manière dont les choses sont incarnées qui font que les choses se régulent. Je vais y revenir pas mal. Et puis dernière chose qui permet de faire le lien entre image pieuse et corps, si vous voulez. Il y a entre l'âme du croyant et son corps, entre l'image qu'il produit et ce qu'il renvoie aux autres, le même type de rapport que ce qui existe entre les images matérielles et Dieu, pour la théologie de l'époque. C'est une similitude qui organise le rapport entre image et pouvoir dans la société que constitue le couvent. Vous le savez, enfin vous le savez ou vous le savez pas, j'ai tendance à dire vous le savez tout le temps, mais il faut pas vous dire que... Bon. Ce qui différencie pour les théologiens de l'époque et pour les théologiens tridentins les images pieuses des idoles, enfin un des critères, c'est un grand débat théologique, mais vous savez qu'on est au moment de la rupture protestante, entre guillemets, de l'iconoclasme protestant, il y a tout un débat théologique sur le statut de l'image. Et l'idole, c'est quoi? C'est d'abord une image fausse. C'est-à-dire que les vraies images renvoient à du vrai, parce que Dieu, c'est vrai. Ça, c'est... Vous n'avez pas le droit de dire le contraire. Et donc, les images ont un lien avec ce qu'on appelle leur prototype, qui est une sorte de modèle qu'on ne connaît pas, en réalité, mais qui fonde la réalité de l'image, alors que l'idole est un pur mensonge. Or, le corps, c'est une image pieuse. Pourquoi? Parce que... le corps des religieuses, il est construit consciemment comme quelque chose qui doit être conforme à l'image de Dieu, à l'image d'un certain nombre de canons, de sainteté, de règles. Et sinon, s'il n'est pas conforme à ça, c'est-à-dire si le corps ne renvoie pas en réalité à une intériorité pieuse, le corps devient une idole. Dans ce cas, il faut le détruire. Il y a un fondement anthropologique à ce mécanisme. Je dis anthropologie, pas au sens de la discipline anthropologique, mais au sens très vague d'une conception de l'homme. Sur la conception de la personne qui organise toute l'ascèse monastique. La personne, disent les théologiens et les philosophes du temps, et la philosophie à l'époque, c'est l'équivalent de la physique, c'est la philosophie de la nature. La personne est constituée d'une âme et d'un corps qui sont composés. Cette âme a été créée à l'image de Dieu. Elle a été infusée dans le corps autour du 40e jour. C'est pour ça que c'est la date pour l'avortement à l'époque. Il y a des décrets là-dessus. Elle a été infusée dans le corps au 40e jour. Et elle est gravée au fond de la personne. C'est-à-dire qu'au fond de la personne, vous avez déjà une image, qui est une image de Dieu. Et donc tout le travail de l'ascèse, ça consiste à rendre conforme votre image extérieure à cette image intérieure. Alors c'est quelque chose de très bigot, je suis désolé. Mais ça organise complètement les pratiques des religieux, d'autant que cette image, qui est le terme vient vraiment d'ailleurs, l'image, elle est imprimée, elle est gravée, c'est ça le mot qui est utilisé, qui est gravé au fond de chacun. Cette image, elle est foncièrement indélébile. Par contre, elle peut être brouillée, grimée, repeinte par le péché, en quelque sorte. Donc vous avez ce lexique de la peinture et de l'image qui sert à décrire les pratiques ascétiques. Et donc, l'âme, elle est la forme du corps, elle est son acte, au sens où précisément, elle l'informe, elle le compose, et donc si l'âme est conforme à l'image de Dieu, le corps sera une image de Dieu ou de la sainteté. À l'inverse, une personne en état de péché est supposée faire transparaître sa noirceur, sa défiguration, parce que le péché, précisément, c'est la déformation de cette image originelle, et c'est un moment où toutes les images extérieures justement que le monde vous renvoie, qui rentrent dans votre tête par le biais des sens, prenne le pouvoir sur votre personne et où toute votre personne se configure à partir de ces images fausses. Et donc la corruption du monde finit par former la personne à la propre image du monde et par la faire pécher et à faire chuter l'âme, parce que je vous rappelle qu'en bonne... je suis désolé, c'est un peu du catéchisme, mais c'est important pour comprendre la manière dont ça fonctionne. En bonne théologie, hein, ce qui vous fait pécher, c'est votre âme. Tout le péché vient de l'âme, il ne vient jamais du corps. Hein. Et donc si votre volonté consent à cette défiguration, vous rentrez dans le péché. Et donc quand l'âme est pécheresse, hein, elle est peinte. Elle est en contact avec des images extérieures qui la menacent si elle les prend pour modèle. Et ces images sont des idoles, bien sûr, qu'il faut briser. Et tout le travail de la cesse consiste à débusquer ces mauvaises images, à les expulser, à les dénoncer. Vous allez voir comment de manière un peu plus concrète par la suite. Hein. Tout ça pour préserver l'image de Dieu qui est gravée au fond de l'âme. Sinon, elle est enterrée, brouillée, repeinte, maquillée, illisible. Donc ça, c'est un peu la théorie. Le problème, c'est que les gens de l'époque moderne ne sont pas complètement stupides, ils savent que l'habit ne fait pas le moine. Et ça aussi, c'est un autre poncif. Et donc, derrière ce discours qui suppose qu'il y a une sorte d'équivalence hein, entre ce que vous voyez d'une personne et sa réalité, et derrière ça, il y a plein de traditions intellectuelles, je pense que vous avez entendu parler de la physiognomonie, par exemple, hein, c'est-à-dire cette idée que on peut lire le caractère et la nature d'une personne à partir des formes de son visage. C'est un truc qui est très important encore au début de l'époque moderne et jusqu'à la fin du 19e. C'est le même genre de système, c'est lié à cette manière de penser. Hein. Et ben malgré tout, vous avez des hypocrites, vous avez des faux dévots, vous avez des gens qui ont les attraits de la sainteté et puis qui en fait sont complètement corrompus à l'intérieur, qui sont maquillés justement. Toute la dénonciation du maquillage, elle est basée là-dessus, sur cette idée que vous êtes noir et que vous mettez du blanc. Et puis, le champion du monde du maquillage, c'est le diable lui-même, hein, dont la principale activité, vous voyez très bien ça quand vous lisez, par exemple, des chroniques de religieuses hein, qui ont des visions, beaucoup, beaucoup. Le démon, en général, c'est pas forcément une sorte de bête à cornes ou un chien qui crache des flammes, vous avez ça aussi, c'est un ange de lumière. Hein. Et donc, il est le champion du travestissement. Donc, il ne faut pas se fier aux apparences. Et d'autant plus qu'on gagne beaucoup à feindre la sainteté, à passer pour une image de Dieu, et vous avez des carrières entières à l'époque moderne, de religieux et de religieuses, qui sont basées là-dessus. Et le début de l'époque moderne, c'est le moment d'une suspicion croissante vis-à-vis des extériorités de la sainteté. Vous avez toute une historiographie depuis les années 90, depuis un travail très important d'une collègue italienne qui s'appelle Gabriella Zari, hein, sur la sainteté simulée, hein, qui ont travaillé sur un certain nombre de trajectoires de religieuses essentiellement, parce que c'est toujours les femmes qu'on accuse de ça, hein, puis, qui prétendent avoir des carrières mystiques, qui prétendent avoir les stigmates, et puis en fait on découvre qu'elles se sont fait des faux stigmates, qu'elles ont triché, qu'elles ont menti, et puis elles sont dénoncées à l'Inquisition, elles sont recluses, bon, il y a toute une série de cas, très nombreux, et de plus en plus, et donc la suspicion est croissante. Donc le problème, c'est ce que je vois, ce que je loue chez ma voisine, ma religieuse. Je suis sœur Marie de la Croix, puis à côté, j'ai sœur Catherine de Jésus. J'ai l'impression que c'est une sainte, est-ce vrai? Ça, c'est une des questions problématiques que pose ce type de questions. Et toutes les relations au sein d'un couvent, elles sont traversées par cette interrogation. Et c'est à travers cette interrogation que se pose la question du pouvoir et la question du gouvernement de soi et des autres. En théorie, la source de l'autorité au couvent, en théorie, c'est ce qu'on pourrait appeler le charisme. C'est pas uniquement ça, hein, bien entendu, mais c'est quelque chose qui est mis en avant, si vous voulez. Et ce charisme, il tire sa légitimité, pour une part, dans le fait que les supérieurs des couvents, donc en général on appelle ça des prieurs, ça dépend des ordres, mais souvent c'est ça, les supérieurs des couvents sont des images de Dieu. Parce qu'ils ont réussi, c'est ce qu'on pense, à maintenir ce lien et à préserver cette image première gravée au-dedans d'eux. Donc quand on dit que le supérieur est l'image de Dieu, hein, ce n'est pas juste une manière de reprendre quelque chose qui est un poncif de la théorie politique de l'époque, qui consiste à dire que tout pouvoir vient de Dieu. Hein, c'est une manière de souligner cette assimilation de toute autorité à Dieu, hein, et toute autorité religieuse, parce que justement, elle a gardé ce lien intact. Et donc ce que disent les textes religieux, c'est de toute façon, parce que ce lien il est très intime et personne ne peut le juger, hein, c'est non pas que les supérieurs sont par nature des images de Dieu, c'est qu'ils doivent être regardés comme Dieu. Donc c'est une injonction et c'est une forme d'éducation du regard. Le supérieur doit être regardé comme Dieu, quoi qu'il fasse. Et donc l'histoire du pouvoir, c'est l'histoire de l'éducation du regard et de la mortification du regard, qui est un des cinq sens, et il faut mortifier ses sens. Et le regard, ça se mortifie de cette manière-là. C'est-à-dire qu'on vous dit la manière dont vous devez voir les choses. Pour ça, il y a des exercices qui peuvent paraître complètement abscons, mais qui prennent leur sens dans cette pédagogie-là. Vous avez une tradition au couvent pour asseoir l'autorité qui consiste à faire exécuter aux religieux, et notamment aux jeunes religieux et aux jeunes religieuses, des actes, des ordres foncièrement absurdes. On te dit, prends cette graine qui est dans la poêle et qu'on a déjà fait frire, va la planter dans le sable sec, arrose-la pendant un mois. On peut dire, c'est complètement stupide, ça poussera jamais. Non, justement, ce qu'on vous demande, c'est d'obéir à une forme pure, un ordre pur. Pourquoi ? Parce que de toute façon, c'est votre supérieur qui le dit. Il n'y a absolument aucune question à poser parce que vous devez le regarder comme Dieu. Vous avez droit, vous, de considérer qu'il est complètement fou, mais vous devez obéir. Alors, ces histoires, c'est un peu des histoires édifiantes. Ils ne passent pas leur temps à faire ça au couvent, attention. Mais ce sont des histoires édifiantes qui sont aussi le lieu des types d'exercices qu'on utilise, si vous voulez. De la même manière, on doit au supérieur un certain nombre de marques de soumission, des inclinations de la tête. Il faut s'agenouiller quand on leur parle dans certaines situations. Tout ça est extrêmement codifié. Et ça, c'est aussi parce qu'ils sont des incarnations de Dieu et parce qu'ils sont des images pieuses. Vous faites la même chose quand vous passez devant une image pieuse, quand vous passez devant une statue de la Vierge dans votre couvent. Vous faites le tour, il y a une statue, vous vous inclinez. Vous avez tout un régime de mouvements du corps qui sont supposés être automatiques et qui sont commandés par le fait qu'il y a une manifestation matérielle de la divinité. Vous avez tout un pan de l'anthropologie cette fois, mais au sens d'une discipline qui fait de l'anthropologie des objets aujourd'hui, qui considère que les objets ont une capacité d'agir, une agency. On sait, c'est un terme qui est très à la mode. L'agency des objets, ça consiste à dire que voilà, il faut considérer les objets comme des acteurs historiques à part entière parce qu'ils sont dotés d'un certain nombre de caractéristiques qui leur sont reconnues par tout le monde et qui font qu'en fait, ils ont du pouvoir. Et si un objet se situe à un certain endroit, à un certain moment, c'est lui qui configure des relations sociales. Donc il a une capacité d'agir. Le pouvoir des supérieurs, c'est ça. C'est un pouvoir en quelque sorte objectivé. C'est en tant qu'ils sont des images de Dieu que de toute façon, il y a un certain nombre de comportements qui doivent avoir se dérouler autour d'eux. Et donc des signes, essentiellement des signes de déférence. Voilà ce qui organise, si vous voulez, assez largement les interactions au couvent, à la fois sur le registre de la police, si vous voulez, de l'harmonie des relations sociales, c'est-à-dire que tout le monde doit être une image pieuse et être extrêmement lisse, maîtrisé, et donc ça contribue en théorie. C'est un domaine, le couvent, il y a beaucoup de décalage entre la théorie et la pratique. Ça organise, donc j'y viendrai petit à petit. C'est toujours le cas en histoire, mais alors là, c'est bon. En théorie, c'est supposé aplanir, par exemple, un certain nombre de différences. C'est comme la politesse, tout bonnement. Vous êtes obligé de mettre les formes en permanence et c'est supposé adoucir les choses. Et puis également, sur le registre du pouvoir, parce que c'est une technique de gouvernement de soi, parce que vous gouvernez avec l'autorité de l'image que vous portez. Et vous allez voir que les rejeux ne sont pas tout égales dans ce jeu-là. Donc voilà, ça, si vous voulez, c'est un petit peu les cadres de l'expérience des regards sur les corps. Les corps sont des images, certaines sont plus proches de Dieu que d'autres, et chacune doit s'en approcher. Alors ensuite, derrière ça, il y a des pratiques. Parce qu'à partir du moment où vous considérez que le corps est une image, il faut considérer que le corps est purement artificiel. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est quelque chose d'assez explicité. Une image pieuse, c'est quelque chose qu'on fabrique, qu'on confectionne. C'est un produit explicitement construit. Et c'est aussi pour ça que le corps des religieuses est proche des images matérielles, parce qu'il est fabriqué de la même manière. Il y a un processus de fabrication, d'apprentissage très matériel, très normé. Et donc à ce stade-là, si vous voulez, on ne se pose plus la question dont je vous ai parlé tout à l'heure du rapport entre intériorité et extériorité. On ne présume pas que l'intériorité est conforme à l'extériorité. On bâtit d'abord une extériorité pieuse. Sans se poser la question de savoir si derrière vous êtes une affreuse hypocrite ou vous êtes une sainte. On vous demande d'afficher une certaine manière de vous tenir. Et donc le corps, il est toute extériorité. Il est, disent les sources, c'est ça le terme le plus important, il est composé. quand vous lisez la littérature conventuelle, notamment les chroniques hagiographiques, on loue constamment la grande composition des religieuses. C'est quelque chose que vous trouvez ailleurs, hein. Le corps composé, vous l'avez à la cour également. Mais alors, au couvent, ça prend des proportions extrêmement, extrêmement normées. Et donc, vous avez des sources qui sont produites pour ça, ce qu'on appelle des manuels, des ordinaires, des cérémoniaux, qui décrivent la manière de se comporter, la manière de vous tenir à table, la manière de tenir la fourchette, la manière de marcher, le rythme du pas, la manière d'appuyer son pied sur le sol, la distance à laquelle vous devez parler à votre interlocuteur, c'est-à-dire pas trop loin parce qu'il faut parler à voix basse, pas trop près parce qu'il ne faut pas l'importuner avec son haleine, la manière dont vous devez les regarder, la tête baissée parce qu'il faut être déférent, mais les yeux comme ça parce qu'il faut quand même les regarder. Donc voilà, vous avez toute une série de manières de tenir votre corps qui sont mises en avant dans des sources qui sont donc fondamentalement des sources prescriptives. C'est des choses que vous apprenez. C'est normatif. C'est quelque chose qui est petit à petit et de manière très contraignante et très péniblement incorporé par les novices. Les novices, vous savez, quand vous rentrez dans un couvent, vous n'êtes pas religieuse comme ça d'un coup, hein, vous avez une année... en théorie une année, parfois plus, probatoire, hein, et à la fin, vous prononcez vos vœux. Donc les jeunes religieuses qui vont devenir religieuses, on appelle ça les novices. Elles ont ce qu'on appelle une maîtresse des novices, qui est une religieuse plus confirmée, qui en général les éduque un peu à part et leur apprend précisément ce genre de choses. La manière de se tenir, et puis les mille et un petits gestes. Quand vous êtes au réfectoire, par exemple, hein, vous devez manger en silence en écoutant quelqu'un qui fait une lecture pieuse. À chaque fois que vous entendez Dieu, vous devez faire une inclination profonde. À chaque fois que vous entendez Marie, vous devez faire une semi-inclination. Ce n'est pas le même geste. C'est compliqué. Vous êtes en train de manger. Hein. Donc, il y a tout un ballet qui est incorporé petit à petit, qui, chez les religieuses confirmées, est complètement automatique. Hein. Quand vous déplacez dans l'église, c'est pareil. Il y a toute une série de mots. Donc, tout ça, ça s'apprend et ça se traduit dans le cérémoniel par une série, et c'est assez significatif, d'oxymores. Parce que c'est l'air que vous avez. Parce que vous ne devez pas avoir l'air complètement abattu. Vous ne pouvez pas non plus avoir l'air... c'est pas la marade d'être au couvent. Il faut quand même avoir l'air sérieux. Hein. Il faut avoir un air grave. Hein. Donc, vous avez la modestie allègre, la sévérité bénie. Voilà. C'est des petits oxymores comme ça. Vous en avez beaucoup. C'est assez caractéristique que ce soit contradictoire parce que tout ça, ce sont précisément des injonctions contradictoires. Et le couvent, je vais y revenir, c'est une société, une sorte de micro-société, je ne sais pas comment appeler ça, qui est bâtie sur les injonctions contradictoires. C'est-à-dire, on vous demande de faire en même temps plusieurs choses qui sont impossibles, en théorie, à faire en même temps. Et tout le gouvernement est basé là-dessus. À la base, le couvent, de toute façon, c'est une injonction contradictoire en soi, parce que c'est un endroit qui est supposé produire des saints. Saint, ça veut dire à part, supérieur, extraordinaire. À part, c'est même l'étymologie. Ce qui est saint, c'est ce qui est sacré, ce qui est mis à part. À partir d'une culture extrêmement poussée de l'uniformité. Tout le monde doit être pareil, et en même temps, il y a des saints qui doivent surgir. C'est pas facile, en fait. Hein, Et donc, l'injonction contradictoire, c'est le cœur, si vous voulez, de la dynamique sociale et politique des couvents. Voilà, donc tout cela est enseigné aux novices comme un ensemble de techniques du corps, et est conçu comme une image artificielle de soi qu'on doit renvoyer aux autres pour les édifier. Ça veut dire que même si, en fait, vous êtes toute pourrie à l'intérieur au regard de votre confesseur, vous devez quand même édifier les autres. De toute façon, cette image-là est essentielle et ça marche. Alors, encore plus pour l'extérieur du couvent, bien entendu, hein, quand les religieuses, qui est assez exceptionnelles, sortent, mais ça marche à l'intérieur du couvent. Or, du coup, le couvent, qu'est-ce qu'il fait ? Il valorise un respect très sourcilleux de la règle et il multiplie les occasions de fauter. Notamment chez celles qui ne maîtrisent pas la règle du jeu. Et donc l'apprentissage de la vie conventuelle, c'est l'apprentissage de la faute et de digérer ces fautes. C'est pas grave en réalité de fauter. Vous allez voir que ça peut même être extrêmement, extrêmement valorisé. Mais le quotidien d'une novice, c'est de se faire reprendre et d'apprendre petit à petit, comme ça, à intégrer des règles. C'est une forme d'apprentissage par la norme, si vous voulez, par un sentiment d'échec personnel. Hein. Et il y a un poncif extrêmement clair là-dessus dans toute la géographie conventuelle. C'est que si certains d'entre vous veulent travailler sur le suicide, bah, allez lire des hagiographies de religieuses. Vous avez, vous n'avez pas toutes les pages, vous avez très 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 souvent des récits tentatifs de suicide. Et donc le thème de la mélancolie de la novice, hein, c'est un lieu commun de ce type de source, parce que justement, c'est le moment de votre carrière, après c'est beaucoup plus facile, hein, c'est le moment de votre carrière où ces injonctions contradictoires pèsent de plus sur vous. D'autant que par ailleurs, je ne l'explicite pas parce que c'est évident, mais quand vous êtes novice au couvent, souvent vous n'avez pas eu le choix d'y aller, hein, à l'époque moderne, donc ça n'aide pas. Voilà, autre strate de la composition extérieure, le vêtement. Alors, comme toute image, justement, le vêtement doit être contrôlé. À la fois pour que l'image elle-même soit conforme à ce qu'elle doit être, mais également pour que, pour que l'usage du vêtement soit proportionné. Alors, je ne vais pas parler longuement de ça, mais dans les constitutions de l'ordre sur lequel je m'appuie le plus, mais c'est valide assez au-delà, hein, chez les Clarisses, chez les Augustines, ça fonctionne pareil. Chez les Carmélites, hein, le passage des constitutions, c'est-à-dire les constitutions, vous savez, les religieux, hein, ils ont des règles, en général, c'est ce qu'on connaît, donc la règle de Saint-Benoît pour les bénédictins. Et puis, ils ont souvent des constitutions. Les constitutions, c'est une sorte de sous-règle, hein, qui explicite la règle, hein, qu'à un certain nombre de chapitres, c'est là qu'on vous dit à quelle heure vous vous levez, comment vous prenez le repas, comment vous châtiez ceux qui ont fait des fautes, et ainsi de suite. Les constitutions, c'est là qu'est décrit le vêtement, par exemple. Et donc, le passage des constitutions thérésiennes le plus long, c'est le passage consacré au vêtement, qui est extrêmement précis. L'habit doit être de serge ou de bure brune, donc c'est deux types de tissu, que l'on emploie pour l'habit le minimum de tissu, que la manche soit étroite, pas plus large à un bout qu'à un autre, que l'habit soit sans pli, droit, rond, pas plus long derrière que devant, qu'il tombe jusqu'au pied. Le scapulaire, donc c'est une pièce qu'on porte pour tenir le reste, hein, sur le scapulaire sera de même tissu, 4 doigts plus courts que l'habit, que le manteau de cœur soit de la même serge mais blanche et de même longueur que le scapulaire, et on y emploiera le moins de tissu possible, faisant toujours attention à ce qui est nécessaire et non au superflu. On portera le scapulaire par-dessus la toque, une sorte de chapeau, de sous-voile, elles ont un voile et puis et les toques seront de chanvre, non plissées, les tuniques d'étamine et les draps de même. Donc voilà, c'est le passage le plus précis des constitutions, et vous avez ensuite un texte qui règle les visites des couvents. Vous savez que les couvents, vous savez ou vous savez pas, mais les couvents sont régulièrement visités par leurs supérieurs pour voir s'il n'y a pas trop de décalage avec entre la forme de vie et la théorie. Et donc, pareil, hein, ces instructions, regardez le vêtement et la toque s'ils sont conformes aux constitutions, et s'il y a quoi que ce soit, ce que Dieu ne souhaite pas, qui paraisse curieux ou peu édifiant, faites-le brûler devant la religieuse concernée. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement sourcilleux. Vous voyez ça aussi. Notamment les manches, hein, font l'objet d'une vigilance toute particulière. Elles doivent être étroites pour ne pas paraître des habits mondains, précisément, hein, pour ne pas faire de plis aussi, ce qui pourrait pas passer pour de la recherche. Hein. Et donc, vous avez des religieuses, par exemple, qui sont valorisées parce qu'elles ont un habit particulièrement court et étroit. Parce que vous n'êtes pas dans un monde où le textile est fait à la chaîne, hein, donc il y a un écart énorme entre cette théorie et la pratique, parce que vous avez une religieuse couturière, concrètement les faits, ça on le voit dans les lettres, elles galèrent pour avoir un tissu de la bonne couleur, en plus elles n'ont pas le droit d'avoir des trucs teints, puis ça coûte cher. Donc en fait, quand vous avez des représentations de religieuses dans les gravures ou dans les séries télé, elles ont toutes le même habit. Mais en réalité, il y avait quand même des petits décalages de teintes, de couleurs, enfin on faisait avec les moyens du bord, si vous voulez. Donc il y a cette réalité-là... cette réalité-là à prendre en compte. Et donc, vous avez des religieuses qui avaient des habits un peu plus courts, un peu plus larges. Bon, on en a toujours loué parce qu'on a l'habit court et étroit. Donc voilà, l'extériorité des religieuses, y compris dans l'image après publique qu'on donne, si vous voulez, fait l'objet d'un contrôle très étroit. Elle est la source de scrupules, de récriminations, etc. Il y a un raisonnement derrière ça, qui est un raisonnement de nature sur la manière dont se construit une spiritualité, dont se fait une réputation de sainteté. Cette idée, c'est que plus je me fabrique une extériorité à l'image de Dieu, plus je vais incarner dans mon intériorité petit à petit ce modèle. Vous avez un terme qui résume ce processus, qui est très important à l'époque, encore aujourd'hui d'ailleurs, c'est le terme habitus. Donc avant d'être pourdieusien, si vous voulez, le terme qui a une longue histoire, habitus, c'est un terme aristotélicien qui désigne en gros, c'est quoi l'idée de l'habitus ? C'est la capacité que les personnes ont à se produire elles-mêmes en répétant les mêmes comportements au point qu'ils deviennent finalement une seconde nature. Et donc, au bout d'un certain temps, ce qui était purement artificiel, calculé, laborieux, devient d'abord automatique, incorporé, naturel, et puis finit par transformer l'intériorité. Vous finissez par correspondre à ça. Et donc, l'ascèse fabrique artificiellement des dispositions intérieures qui sont destinées à devenir durables et à transformer la personne. Donc, le corps est artificiel, mais il est aussi prescriptif, il montre ce qui doit être. Il le montre aux autres, mais il le montre aussi à soi-même. Et donc, tout l'enjeu de votre travail, c'est d'être à la hauteur de ce que vous montrez. Là encore, le vêtement religieux, c'est exactement ça. Le vêtement religieux, chaque pièce du vêtement religieux, c'est un rappel de la règle. Chaque pièce est porteur d'un discours qui est supposé être collectif, c'est-à-dire partagé entre toutes les religieuses, et prescriptif. Il représente ce que les religieuses doivent être. Il ne révèle pas une intériorité singulière, à la différence, si vous voulez, du vêtement mondain, qui est supposé revendiquer une forme d'intériorité. En tout cas, c'est ce que disent les religieux. Je ne suis pas sûr que ce soit très pertinent. Le vêtement religieux, non, il arbore des valeurs collectives à la hauteur desquelles on est supposé se hisser individuellement. Sa coupe, sa teinture, le fait qu'il ne soit pas teinté, par exemple, c'est un signe d'économie. Et puis, la ceinture, c'est l'entrave par laquelle la religieuse doit se laisser guider. La cape blanche, c'est sa pureté intérieure. Bon, voilà, il y a toute une symbologie, je ne vais pas rentrer dans les textes, c'est des choses assez évidentes au bout du compte, hein, mais dans le vêtement, qui font qu'il est quelque chose d'éminemment prescriptif et qui matérialise en quelque sorte des promesses à tenir. En l'occurrence, le plus souvent, les vœux d'obéissance et de chasteté. Et donc, la symbolique du vêtement, hein, ce n'est pas un discours qui désigne un état, mais c'est un commandement. Le vêtement, c'est la règle. Ça s'accorde parfaitement avec la théorie de l'habitus que je viens de mentionner, hein. C'est parce que vous portez un vêtement prescriptif, normatif, que vous finissez par vous couler dans la norme. Et donc, vous avez des images édifiantes, des récits édifiants qui explicitent ça de manière extrêmement matérielle. Le vêtement fait des rappels à la règle quand il y a des erreurs. Vous avez un miracle, alors pas accrédité du tout, je ne crois pas vraiment au miracle, mais bon, il y en a des plus crédibles que d'autres, je ne sais pas comment dire, mais là, c'est un miracle qui est dans la géographie officielle du Carmel, donc c'est des textes qui ont été rédigés en gros entre les années 1620 et 1640, c'est assez rigolo. Quel est le problème? Les religieuses au début ont une vie extrêmement austère. Vous savez qu'on ne se lave pas beaucoup à l'époque moderne, et donc elles sont rongées par la vermine. Et donc c'est un énorme problème, elles font bien le lien entre la vermine et la pauvreté de leurs vêtements, la grossièreté de leurs... Et elles se posent un problème important, qui est même un problème de règles et de vie en commun. Soit on allège les vêtements et on a une vie moins austère, hein. Mais dans ce cas on lâche un petit peu sur ce qui fait notre identité, hein. Soit on reste là, mais bon, la vermine c'est quand même assez problématique, puis ça, il y a des maladies, bon, voilà. Comment fait-on? Alors elles ont une réaction typique, elles rédigent une petite chanson et elles vont prier ensemble au chœur. Donc il y a tout dans la géographie, il y a tous les couplets, hein. Je vous donne juste le refrain: puisque tu nous as donné un habit nouveau, Seigneur, libère ce tissu de la vermine. Et donc, miraculeusement, après cette chanson qu'elles ont faite, donc je dis une chanson, mais c'est plus que ça, hein, c'est une procession interne au couvent, elles vont chanter officiellement devant le... Voilà, en chœur, de manière très ordonnée, et après ça, elles sont, nous dit-on, libérées de la vermine. Plus jamais les carmélites auraient eu de vermine. Alors naturellement, c'est complètement faux, mais ça change quelque chose, qui est que maintenant, quand elles ont de la vermine, c'est qu'elles ont fauté. Et donc, leur prière est écoutée, nous dit la géographe, hein, c'est Francisco de Santa Maria. À partir de ce moment, elles commencèrent à ressentir toute une grande propreté dans leurs vêtements. Elles ne virent plus, ni sur elles, ni sur leur habit, une telle vermine. Et l'effet pervers, donc, c'est que la vermine, née spontanément sur un corps corrompu, elle n'est plus l'indice de l'hygiène précaire qui règne au couvent, mais elle est celui d'une âme rejetée par Dieu et placée hors des privilèges de l'ordre. Et donc vous avez beaucoup de signes après dans la géographie, hein, et donc vous avez beaucoup de mentions aussi dans le procès de canonisation de Thérèse d'Avila, hein, des religieuses. Isabelle Bautista, par exemple, c'est une religieuse d'Avila, qui explique qu'elle a entendu dire aux religieuses que si quelqu'un prenait l'habit et ne devait pas rester, elle générait de la vermine. Et donc vous avez des récits manuscrits de fondation de pauvres novices qui disent: j'ai de la vermine, est-ce qu'il faut que je parte? Est-ce que finalement ça veut dire que je suis rejeté? Est-ce que par l'intermédiaire de mon hygiène corporelle et du vêtement, parce que la vermine est vraiment liée au vêtement, elle est dans le vêtement, hein, le Seigneur me dit finalement qu'il faut que je parte? Un dernier exemple, la chronique de Madrid, bon, il y en a quelques-uns, mais rapporte le cas d'une religieuse, et au Fraciale del Sacramento, on nous dit elle gardait un collier à la gorge, avec une croix, ce qui est donc interdit, hein, même si c'est un bijou pieux, qui se remplit d'immondices. Les puces l'affligeaient beaucoup, et elle pleurait amèrement de voir qu'elle n'était pas faite pour la religion. Entre parenthèses, c'est un signe qui apparaît chez les novices pour signifier qu'elles ne doivent pas rester. Voilà, au-delà de cet aspect proprement punitif, cette dimension très prescriptive de l'extériorité, elle se laisse voir également dans les visions. Les visions des religieuses, c'est toujours des religieuses sursaturées, si vous voulez. Elles sont plus blanc que blanc, plus lumineuse que lumineuse, plus propre que propre. Hein. Donc ça, c'est vraiment l'incarnation de la sainteté qui se transmarait dans le vêtement. Donc voilà, chacun est supposé être une image régulatrice pour les autres, une image modèle, à partir de laquelle chacune est appelée à se modeler. Et ça, c'est le premier mécanisme du gouvernement. C'est une incitation au gouvernement de chacun, parce que le travail de l'image de soi, c'est un travail de contrôle de soi et de gouvernement de soi, essentiellement. Et le principe, c'est ce qu'on appelle la sainte émulation. C'est la compétition interne aux religieuses dans la composition de soi. Alors, c'est un système qui n'est pas du tout autorégulateur, qui pose un certain nombre de problèmes. Le premier problème, ce sont, si vous voulez, les contradictions internes du système, qui sont nombreuses. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le couvent est régi par des règles qui sont des injonctions contradictoires. Et donc, au-delà de la difficulté qu'il y a à les incorporer, il faut savoir les interpréter et se placer dans la bonne tonalité, dans la bonne distance du rapport à la règle. Et dans ce jeu interprétatif de la règle, sur la manière de se comporter, sur les pratiques qu'on peut avoir, l'image des corps est particulièrement cruciale, parce que précisément, les mots sont assez contrôlés ou ne suffisent pas. Et donc, c'est dans l'image des autres, dans la performance qu'elles offrent au regard, que se constitue en quelque sorte le rapport juste à la norme. Vous avez une règle écrite assez minimale, et puis c'est dans le regard des autres que vous voyez concrètement comment vous devez ajuster vos pratiques. Alors c'est un petit peu abstrait comme ça, je vais vous prendre un exemple à partir des pratiques pénitentielles qui sont régulées à partir du corps des supérieurs. Dans tous ces couvents-là, donc là c'est valable très au-delà du Carmel, vous avez des pratiques pénitentielles qu'on jugerait aujourd'hui à raison extrêmement violente, qui consistent à se flageller 3 fois par semaine, ou à porter ce qu'on appelle des cilices. Les cilices, ce sont ou alors des grosses tuniques de tissu bien râpeux, ou alors des armatures en métal qui ressemblent un peu aux corsets qu'on a dans le monde, qui ont parfois, j'ai pas pris d'image, mais on a, qui ont parfois des pointes rentrées vers l'intérieur. Donc c'est vraiment des choses extrêmement extrêmement violente, et donc on saigne et on a mal. Et donc la tension, c'est la tension entre modération et zèle. C'est-à-dire vous avez des prescriptions réglées, vous devez de toute façon vous flageller 3 fois par semaine. Il y a toute une série de prescriptions qui explicitent la manière de le faire, en chœur, en rythme, en chantant, avec une certaine distance, dans le noir pour pas se gêner, mais suffisamment près pour s'entendre, parce que c'est le rythme du fouet qui donne le rythme. Voilà, donc tout ça est très normé, mais en réalité, comme vous devez produire des saintes, ça ne suffit pas. Et vous avez des religieuses, soit parce qu'elles veulent briller, soit parce qu'elles sont, donc c'est des gens qui, pour une bonne partie d'entre elles, sont quand même rongées par le scrupule, par la culpabilité, enfin qui ont vraiment l'impression qu'elles vont aller brûler en enfer et donc qu'elles ont besoin de se racheter, si vous voulez. Vous avez des gens qui sont tentés de faire du zèle. Et c'est là que le rapport entre pratique corporelle et pouvoir s'imbrique, parce que vous avez une norme et puis vous avez ce qu'on appelle des mortifications dites extraordinaires. Et pour avoir le droit de le faire, il faut demander l'autorisation du supérieur. C'est discrétionnaire. Donc ça, c'est le principe. Alors, qu'est-ce que vous devez faire ? C'est là que l'injonction contradictoire joue à plein. Vous êtes loué si vous êtes modéré, si vous suivez la règle, si vous êtes sourcilleux, si vous êtes obéissant. Vous êtes loué si vous êtes zélé. Si vous êtes trop zélé, ça ne va pas. Ça ne va pas parce que si ça devient ostensible, si ça devient un signe de vanité, si on perçoit dans vos actions une volonté de se placer au-dessus des autres, et ce n'est plus du tout un signe d'humilité, alors là, ça ne va pas du tout. Si vous tombez malade, en théorie ça va pas, parce que vous pouvez plus suivre le rythme de base du couvent qui est quand même déjà assez pénible. Donc vous avez tout un jeu d'hésitation, et quand vous lisez les textes, c'est extrêmement contradictoire. C'est-à-dire que la géographie, hein, c'est une littérature complètement réversible. Souvent, on a l'impression que les hagiographes, c'est des gens qui veulent montrer que les gens sont des saints, alors ils camouflent le réel, ils truquent les choses. En fait, ils n'ont même pas besoin de faire ça. Un hagiographe, c'est quelqu'un qui peut prendre n'importe quoi et vous montrer que c'est un signe de sainteté. Donc, vous avez une religieuse hyper modérée, qui n'en fout pas une, qui se flagelle à peine, pas de problème, c'est une sainte, parce que justement, elle est très obéissante, très modérée, complètement dans la norme. Vous en avez une complètement... libérée, qui se flagelle, le sang coule, qui demande aux autres de la flageller, qui se fait punir à longueur de temps parce qu'elle en fait trop, et bien là, on peut louer son zèle. Donc en fait, vous avez vraiment les deux, et les religieuses, elles ont ces deux modèles face à elles. Donc comment savoir jusqu'où se flageller? Quelle est la bonne violence des coups? Est-ce que vous avez le droit d'aller jusqu'au sang? Est-ce qu'il faut montrer ses cicatrices? Alors oui, pour édifier les autres un petit peu. Ben non, pas trop, parce que si c'est trop ostensible encore, on va vous... Donc vous avez toute une série de tensions, si vous voulez, autour de ça, et puis jusqu'à cette contradiction qui veut que l'excès de zèle et la punition peuvent être valorisés. Donc vous avez les religieuses, on le voit assez nettement, qui consciemment cherchent à être punies, parce qu'au moins quand vous êtes punies, vous n'êtes plus dans le scrupule. Vous savez, vous avez fait une faute et que vous avez été punie, que vous êtes rachetée. Hein. Donc de toute façon, vous avez un goût de la punition extrêmement... extrêmement explicite en fait dans ces pratiques-là, hein, qui est lié à ces contradictions. Alors comment ça se régule tout ça? Eh bien, ça se régule par l'image du corps. C'est-à-dire que quand vous ne savez pas quoi faire, vous faites comme la maîtresse des novices, vous faites comme la prieure. Et donc c'est l'image du corps des autorités, hein, qui vient réguler vraiment par le jeu de l'exemple au sein de la société conventuelle, quel est le bon niveau de décalage par rapport à la norme, en quelque sorte. C'est là qu'il faut bien comprendre qu'il y a certaines religieuses, du coup, qui sont, comme dans la ferme des animaux d'Orwell, qui sont plus égales que d'autres, même si tout le monde est égal. Je dis ça parce que dans une part de l'historiographie, le couvent, alors notamment le Carmel, où il y a une historiographie très hagiographique, une sorte de laboratoire un peu proto-démocratique, une société très égale, suave, douce, ce qui n'est pas complètement faux, hein, mais en réalité, malgré tout, c'est quand même assez largement anachronique. C'est des sociétés très inégalitaires et très normées. Vous avez des différences de statut, ça je le mentionne pas, mais vous avez des esclaves déjà, au Carmel pas trop, mais dans les couvents vous en avez quand même assez souvent. Vous avez des religieuses de voile blanc et des religieuses de voile noir. Les religieuses de voile blanc sont en gros les servantes des religieuses de voile noir, sont les religieuses de cœur. Donc c'est pas du tout une société égalitaire, mais au-delà de ça, hein, même dans la manière de se présenter, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, si vous voulez, entre la novice dont on suppose, du coup, on la connaît pas, elle débarque, on suppose qu'elle connaît pas les règles. Donc chez elle, le zèle, c'est le signe d'une absence de maîtrise. Les excès sont condamnés, elle n'a pas le droit de faire du zèle. Et puis en même temps, le modèle qu'on lui donne, c'est un modèle extrêmement zélé. Parce que le modèle des supérieurs, précisément, elles n'ont plus leurs preuves à faire, hein, et elles peuvent se permettre d'aller plus loin que la norme. Donc là, vous avez une sorte de contradiction interne, on leur présente des modèles, qu'en réalité, elles n'ont pas véritablement le droit de suivre. Vous voyez très bien ça quand il y a des traités édifiants sur ce que doit être la maîtresse des novices. Vous avez un premier discours qui consiste à dire justement qu'elle doit être modérée, qu'elle doit être douce, suave dans ses relations avec les religieuses, ne pas leur faire peur. Et puis en même temps, quand vous lisez les carrières des religieuses de novices, c'est toujours les pires. C'est-à-dire c'est toujours les plus violentes dans leur pratique, parce que justement... elles sont beaucoup moins soumises à la contrainte et elles peuvent se permettre d'être dans un zèle particulièrement ostensible. Voilà, vous avez des cas de religieuses qui se font attacher comme Christ à la colonne au milieu du réfectoire et tout le couvent passe pour les flageller. Bon, bah, ça, la pauvre novice, elle n'a pas le droit. Certaines en sont très contentes, d'autres en sont très frustrées. Hein. Voilà, donc vous avez en d'autres termes des religieuses qui ont, c'est un terme bourdieusien, si vous voulez, qui ont le sens du jeu. Hein. Donc elles ont compris la manière dont ça fonctionnait et elles peuvent s'ajuster plus facilement. Et donc tout se passe comme si on présentait aux jeunes religieuses une image un peu impossible, parce qu'on ne leur laisse pas la latitude d'aller jusqu'au bout de l'imitation des modèles qu'on leur propose. Parce que les aînés sont autorisés à faire ce qu'elles ne peuvent pas encore faire. vous avez une forme de gouvernement, du coup, un peu justement par la sidération, par le dégoût, parce que aussi il y a quand même une pratique, hein, c'est-à-dire que quand vous avez fait 20 ans de couvent, vous supportez beaucoup plus facilement un certain nombre de choses que la jeune novice qui débarque. Hein, donc il y a un vrai décalage. Je vous prends un exemple avec, bon, je suis désolé, c'est vraiment pas ragoûtant, mais c'est assez significatif s'il faut comprendre jusqu'où ça va. C'est Juliana de la Madre de Dios, c'est une religieuse qui vient d'une famille assez importante, administrateur de la monarchie. Son père était secrétaire du rang. Donc elle était prieure du couvent de Séville dans les années toute fin du XVIe siècle. Elle mettait souvent sa bouche. Ça, c'est des modèles de sainteté qui viennent de l'Italie de la fin du Moyen-Âge, de Catherine de Sienne notamment. Elle mettait souvent sa bouche au-dessus de ce qu'elle venait de régurgiter, jusqu'à ce que la force et la violence de cette lutte qu'elle menait contre elle-même lui donnent de grandes nausées. Alors qu'elle était avec une malade atteinte de colique, une maladie particulièrement répugnante, comme on le sait, et comme un peu de vomi qu'elle avait fait d'un peu de bouillon lui causait une grande horreur, elle s'approcha pour le boire, pour se mortifier, sans s'arrêter à l'horreur que cette action fait à la nature. Elle voulait souffrir pour l'amour de Dieu, mais la guerre que lui fit son estomac fut telle, lui qui ne pouvait le supporter, qu'il s'agita de nausées et de haut-le-cœur. Et donc elle renonce. Alors, bon, je suis désolé pour cet épisode-là. Je lui ai raconté quand même assez souvent ce type de choses, donc ça ne fait plus grand-chose, mais je sais que ce n'est pas très agréable. Ce qui est important, c'est que le texte décrit les réactions des religieuses, qui sont toutes extrêmement édifiées et aussi extrêmement dégoûtées, l'un n'est plus pas l'autre. Les religieuses louent le Seigneur d'assister à un acte aussi héroïque. Et puis, ici comme ailleurs, ces pénitences particulièrement extrêmes, elles sont associées aux prieurs et aux supérieurs. Et ce qui arrête les choses, en fait, c'est le risque que l'image se décompose, précisément. C'est-à-dire qu'elle arrête parce qu'elle a les haut-le-cœur, parce qu'elle a la nausée, parce qu'elle ne peut plus garder la maîtrise de soi. Donc vous n'êtes plus exactement dans le gouvernement par l'image dont je parlais tout à l'heure, quand vous faites ce type de choses, hein, ce n'est plus le corps composé, vous êtes vraiment dans une sorte de culture de la performance, en quelque sorte. Mais malgré tout, hein, le fond du truc, c'est de garder cette composition du corps en toutes circonstances. Et à la limite, l'idée, c'est de pouvoir tenir en soi la plus grande violence en restant composé. Hein. C'est à ça que se mesure votre autorité. Je vous prends une image de ça, hein, que les religieuses ont pas mal commenté. Donc c'est l'unique gravure qui a été faite de Thérèse d'Avila Flagellant, parce qu'en réalité après on a considéré justement que c'était trop sulfureux à présenter comme ça à partir du début du XVIIe. Non pas que les pratiques aient vraiment changé, mais je vais y venir, c'est de plus en plus interdit et pénalisé, hein. Et donc les religieuses se sont plaintes non pas qu'elles se flagellent, mais qu'elle ait le bras dénudé. Il y a une défense, voilà, il y a une sorte de débat interne à l'ordre autour de l'image aussi, avec donc ceux qui disent que le bras est dénudé, donc du coup c'est indécent, et ceux qui disent que c'est pour incarner quelque chose qui est un thème qu'on retrouve par ailleurs dans d'autres sources, qui est le thème de la force divine du bras. C'est-à-dire, vous avez cette idée que des religieuses qui s'infligent des trucs aussi abominables et qui arrivent à ne pas rester composées, c'est précisément le signe que Dieu est en elles, sinon elles ne pourraient pas. C'est surhumain. Donc, vous avez l'image de Dieu. Et puis, par ailleurs, hein, donc, ce qui est important, c'est qu'elle-même a l'air complètement absorbée. Hein, donc, c'est pas. Si vous flagellez et qu'on voit que vous luttez comme un fou, que c'est très difficile, que vous êtes en train de tenir votre douleur, hein, ça ne passe pas, en théorie. Je ne vous dis pas qu'en pratique, les religieuses ne serraient pas les dents. Hein, mais sur le plan du modèle, c'est ça que vous êtes supposé, incarner. En bas, vous avez une sorte d'éventail des outils qui sont utilisés, et puis vous avez les petits démons, parce que la flagellation, c'est supposé les faire fuir. C'est une pratique, ils ont peur de la discipline, c'est une forme d'exorcisme. Voilà, donc la plus grande violence doit être associée en quelque sorte à la plus grande impassibilité et à la plus grande maîtrise. Ça veut dire que tout est fait en gros pour que le pouvoir de ceux qui détiennent le pouvoir soit renforcé par ces injonctions contradictoires, si vous voulez. Derrière ça, il y a une lecture plus simplement sociale qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'en gros, les religieuses qui sont issues des élites ont beaucoup plus de chances dans ce jeu-là que les autres. Assez significativement, et puis pour des raisons qui n'ont plus rien à voir avec leur capacité à supporter le fouet, elles sont très systématiquement, très rapidement supérieures des couvents, de toute façon. Hein. Donc elles ont une latitude vis-à-vis de ce genre de choses que les autres n'ont pas. Par ailleurs, elles ont déjà appris dans le monde un certain nombre de ces contraintes, C'est-à-dire que les religieuses issues de l'aristocratie, particulièrement dévotes, en général, elles se flagellent en famille avec leurs sœurs depuis l'âge de 7 ans. Hein. Donc vous avez plein de littérature sur la question. Il y a un article d'Isabelle Poutrin sur l'apprentissage de la sainteté des années 80 qui montre ça très bien. Vous avez des petites filles qui jouent au couvent. Vous avez je vous conseille une bande dessinée sur Thérèse d'Avila, Claire Bretéchet, hein, qui date de, voilà, hein, où on la voit jouer au couvent et jouer au martyr avec son frère. Et donc vous avez ce sens du jeu dont je parlais qui en fait est incorporé depuis le plus jeune âge chez certaines, et puis ensuite de toute façon comme c'est des aristocrates on leur demande beaucoup moins parce que l'humilité, l'humiliation c'est à la mesure de ce que vous pouvez faire. Quand vous êtes une aristocrate, vous avez un corps délicat, vous avez été élevé dans la... Donc en fait, vous avez des religieuses qui sont louées. Là, je vous ai lu un texte particulièrement éprouvant avec cette religieuse séviane. Vous avez le même type de description avec des aristocrates qui goûtent du fromage. On leur dit, ah vraiment, et on a l'impression qu'elles font la même chose, si vous voulez. Donc voilà, vous avez un décalage dans les attentes qui fait que toute cette mise à l'épreuve du corps, qui est une vraie mise à l'épreuve, je crois qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus, elle ne se passe pas exactement de la même manière en fonction, en gros, de votre extraction sociale, pour dire les choses très vite. Voilà, donc le premier problème, hein, c'est ce que de ce système-là que j'ai décrit au début, hein, c'est les contradictions internes du système et la manière dont ça fait jouer le rapport, les relations de pouvoir dans le couvent. Le deuxième, c'est le décalage tout bête entre intériorité et extériorité, c'est-à-dire cette question d'hypocrisie. La perspective de passer pour vaniteux, la crainte d'une image trop parfaite, alimente des scrupules. Et donc toute religieuse, unanimement louée par ses co-religionnaires, est supposée le vivre très mal. Et doit montrer, d'une manière ou d'une autre, qu'elle ne croit pas à cette image de sainteté qu'elle renvoie. Donc elle doit être en quelque sorte l'iconoclaste de sa propre image. Sinon, elle risque d'être accusée de vanité et d'ostentation. Donc vous avez deux registres de pratiques qui sont associés à ce jeu, qui permettent d'abord de tester la sincérité de la performance de chacune, de voir si vraiment, en gros, l'extérieur est conforme à l'intérieur, et ensuite également de maintenir une sorte d'écart, entre l'image publique parfaite qu'on renvoie et le sentiment qu'on a de soi. Hein, parce que vous ne pouvez pas coller à cette image de sainteté sans tomber dans dans l'orgueil, en quelque sorte. Le terrain privilégié pour mettre au jour ces décalages, ce sont les pratiques d'enlaidissement. Elles portent sur... alors ça, c'est des choses quand même... Je ne sais pas si c'est spécifiquement ibérique, mais j'ai regardé après dans les sources françaises, je n'ai vraiment pas trouvé à ce point-là. Mais bon... voilà, vous avez des religieuses, il n'y en a pas des centaines non plus, hein, vous avez des religieuses qui s'arrachent les cils, qui se couvrent le visage de cendres, donc ce qui est un geste de pénitence vétérotestamentaire ancien, hein, tous ces trucs-là ont des significations religieuses aussi, qui se réjouissent d'avoir les mains particulièrement calleuses, qui se lavent avec l'eau des poules, qui gardent les excréments des chats sur les mains, voilà, il y a toute une stratégies d'enlaidissement qui portent précisément sur les lieux du canon de beauté de l'époque. Le canon de beauté de l'époque, en gros, c'est donc on voit pas trop les corps, encore moins les corps des religieuses, hein. Donc vous êtes blanche et rouge, c'est un canon de beauté d'ailleurs religieux parce que c'est le cantique des cantiques en réalité, hein, je vais revenir. Donc vous avez le fond de la peau blanche, vous avez un petit peu de rose aux joues pour signifier votre pudeur, vous avez les mains fines, quasiment diaphanes des aristocrates, et puis en général vous faites ça quand vous êtes dans le monde parce que justement vous prenez de la peinture, vous prenez des pilules, vous mangez de la terre et de l'argile pour vous blanchir la peau, vous mettez des produits chimiques de l'époque, et l'univers du maquillage dans l'Espagne du siècle d'or entre guillemets, c'est un univers aristocratique, c'est à dire que quand vous regardez les inventaires des aristocrates, elles ont le matériel pour se faire leur propre maquillage, et donc c'est vraiment une pratique qui est très marquée socialement, même s'il y a plein de gens qui se maquillent, c'est associé beaucoup à l'aristocratie. Et donc vous avez toute une série de jeux qui consistent précisément à se noircir la peau, à avoir les mains calleuses comme une paysanne, se la couvrir d'ordures pour qu'elle ne soit plus blanche, à s'arracher les cils parce que le visage c'est le lieu précisément de la beauté, qui sont décrites comme des pratiques d'enlaidissement et qui sont le renversement mais très explicite, hein, des pratiques de maquillage de l'époque. Et vous avez la même chose, je parlais des bijoux tout à l'heure, hein, vous avez la même chose avec les bijoux. Les instruments de pénitence que vous portez sur vous, votre cilice, le cilice, ça peut être un anneau au cou, par exemple, hein, en métal qui vous sert, ça peut être un truc au bras. Bon. Les cilices, ce sont des bijoux, ce sont les galas, les religieuses, hein, ce sont les atours de la bonne religieuse. Et vous avez d'ailleurs, hein, vous voyez ça dans la... dans l'iconographie et notamment dans l'iconographie des saintes. En général, les saintes, elles peuvent être représentées avec beaucoup de bijoux. Hein, et on vous dit, voilà, ces bijoux, en fait, c'est leurs instruments de mortification qui sont, une fois qu'elles sont mortes, qui transparaissent comme des diamants. Donc vous avez un jeu explicite, si vous voulez, avec les pratiques d'embellissement du temps. Et donc d'enlaidissement, ce sont des pratiques d'iconoclasme qui visent à dire... concrètement, je ne suis pas aussi belle que vous le pensez. Je vais vous montrer que cette composition du corps pour laquelle vous me louez est en réalité une idole. Et il faut absolument que je fasse coller mon intériorité vile, parce que c'est ça le sentiment que j'ai. Hein, et donc, j'extériorise. Il y a des questions de bestialité aussi, hein, portée du crin. Bon, voilà. Il y a une manière de mettre en scène la laideur de votre péché. C'est une pratique... C'est une manière de lire les pratiques pénitentielles qui est très ancienne. Il y a même un mot qui s'appelle exomolégèse. L'exomolégèse, hein, c'est le fait de porter extérieurement l'état de laideur de votre intériorité. Donc ce sont des pratiques d'exomolégèse qui sont à la fois un jeu sur le statut social des religieuses, parce que naturellement c'est surtout celles qui vivent mal leur passé d'aristocrate qui font ça, et puis un jeu sur la tradition pénitentielle. Le deuxième lieu où ça peut avoir... cours, ce type de choses, c'est le réfectoire. Le réfectoire, c'est le lieu de ce qu'on appelle les mortifications extraordinaires. Le réfectoire, c'est le lieu du corps, c'est le lieu d'une théâtralisation de la mortification. Quand vous êtes au réfectoire, vous avez un crâne, toujours posé là, avec des religieuses qui parfois sont supposées boire dans le crâne, pour vous rappeler que nourrir le corps, que le corps, c'est la mort, en quelque sorte, pour dire les choses un petit peu vite. Et puis vous avez des pratiques très normées qui sont détaillées dans les manuels et que vous retrouvez au moins jusqu'aux années 30, qui consistent à manger par terre, à s'allonger à l'entrée du réfectoire et à se faire piétiner la bouche par les autres, à se flageller devant les autres, à hacer el borriquito, c'est-à-dire se trimballer à quatre pattes avec quelque chose sur le dos, de la paille, des gravats, une croix, hein, pour rappeler, voilà. Et vous avez Thérèse d'Avila a fait ça, vous avez ça, pas dans son hagiographie officielle, mais dans la chronique de l'ordre. Dans la géographie, ils ont un peu toiletté ce genre de choses. Dans la chronique de l'ordre, vous avez ça, hacer el borriquito. Et ça reprend des pratiques pénitentielles voilà, qui ont été étudiés par des médiévistes. Ça a un nom, Armiscara. Voilà, donc ces pratiques de mortification du réfectoire, c'est le seul moment finalement où vous pouvez faire des choses particulièrement excessives devant les autres sans que ce soit pénalisant en réalité. Parce qu'on juge de votre performance et parce que vous avez le droit de le faire, sinon on vous l'a demandé. Donc vous avez des religieuses qui demandent l'autorisation et puis on les frustre de ça. Parce que c'est le seul espace licite où vous pouvez montrer en quelque sorte la sincérité de votre pénitence. Parce que toutes les choses dont je vous ai parlé, hein, les cilices, etc., ce sont des choses qu'il faut cacher pour ne pas être ostensible. Donc en général, quand on voit les pénitences des autres, ce qu'elles font, quand vous voyez la flagellation de religieuse, c'est parce qu'il y a une petite goutte de sang qui perd. Alors on se dit, voilà, elle doit avoir une couronne d'épines sous sa toque. Parce qu'elle a l'air un peu pâle, alors on se dit, voilà. Donc vous avez tout un jeu d'anticipation de ce qu'on ne voit pas, en quelque sorte. Hein. Et donc il faut qu'il y ait des moments où les choses soient vues, pour qu'ensuite ce jeu de fantasmes sur ce que chacun fait puisse avoir lieu. Bon. Le système, si vous voulez, du coup, n'est pas du tout stable par nature. Il est mis à l'épreuve et tout repose, en quelque sorte, sur un paradoxe qui veut que celles dont la réputation n'est plus à faire, en quelque sorte, n'ont plus rien à faire. Quand vous êtes une prieure, que vous avez déjà, en tout cas qu'on dit aux novices que vous avez fait vos preuves, mais vous n'avez pas vu, hein, vous pouvez faire quoi que ce soit, ça va être un signe de mortification. Quand vous êtes une jeune, vous pouvez faire quoi que ce soit, ça va être un signe de dérèglement. Hein. Donc il y a vraiment un... Et ça, c'est quelque chose que vous trouvez de manière symétrique dans les manifestations de l'extase. C'est assez rigolo d'ailleurs, parce que l'extase, vous savez, alors donc l'extase, c'est un moment de la mystique où les religieuses sont supposées être en quelque sorte, enfin leur volonté est fusionnée avec celle de Dieu. Ça se traduit parfois par des manifestations supposées extraordinaires. Vous avez des illuminations, vous avez des lévitations, et donc il y a toute une gradation de l'extase, hein. Vous avez des stades, et le stade ultime de l'extase, c'est tous les théoriciens qui en fait sont les gens qui ont eu des extases, en tout cas qui ont bien vendu leurs extases à leurs congénères, qui ont été reconnus comme ça, et qui n'ont plus leur preuve à faire, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, au dernier stade, plus rien ne se voit. Et donc Thérèse d'Avila dit ça. Thérèse d'Avila, elle a fait sa carrière sur des choses quand même assez... elle a lévité concrètement, hein, donc c'est quand même pas mal. Mais elle dit, mais ça, c'est encore, c'est un truc de débutant. Le truc qui fonctionne, hein, le dernier stade, la dernière demeure, hein, c'est, chez elle, ça fonctionne comme ça. La dernière demeure, plus rien ne se voit, tout est intérieur. Et donc, vous baladez dans votre couvent, vous n'avez plus rien à faire, vous êtes en extase. Là, votre carrière, votre réputation est faite. Hein.